C'est des noces alchimiques. Et en fait, dans le texte que je vous avais proposé, c'était de partir en fait du couple que l'on fait dans le quotidien, et ensuite de voir effectivement différentes étapes sur la question du couple, pour arriver à la question des noces alchimiques qui, dans la tradition jungienne, mais pas que jungienne, hein, on verra, il y a aussi tout plein d'autres traditions qui font appel à ça, c'est d'aller vers son unité intérieure. D'accord. Donc autant aujourd'hui, les outils de la psychologie freudienne, lacanienne, nous disent que nous sommes des êtres qui sommes définitivement morcelés, autant en fait les traditions, que ce soit tradition chamanique, tradition ayurvédique, hindoue, que ce soit la tradition taoïste, nous disent tout le contraire, c'est-à-dire que le chemin de vie d'un être humain, c'est de retourner en fait vers son unité. C'est vrai que ça vient en contrepoint du coup de ce que l'on peut entendre dans beaucoup de discours psychologiques, surtout à caractère lacanien, qui lui nous dit que de toute façon nous sommes définitivement morcelés, et ce à tout jamais. Ce qui est générateur de frustration, et qu'il faut accepter la frustration. Donc en fait c'est une trajectoire parmi tant d'autres, hein. Elle est aussi nécessaire, je dirais, à l'élaboration de soi. Mais la psychologie jungienne propose en fait de dépasser ce cadre initial pour rentrer dans une dimension dans laquelle la question des noces alchimiques va pouvoir enfin se réaliser, c'est-à-dire c'est l'intégration des différentes composantes desquelles nous sommes faits, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, la conférence que j'avais faite sur Animus Anima, c'est-à-dire lorsque les hommes doivent intégrer en fait leur partie féminine que Jung a appelé l'anima, et que les femmes doivent intégrer leur partie masculine, et que ce que Jung avait appelé l'animus. Alors il n'avait pas appelé masculin féminin parce que le concept de masculin féminin renvoie en fait à un être sexué, alors que la partie anima et animus renvoie à une partie inconsciente qui nous relie en fait à la question de la création des mondes. D'accord ? Donc on est vraiment dans une tradition qui est beaucoup plus vaste et qui s'appuie en fait sur des milliers d'années de tradition, d'enseignement de ce que peut être justement un être humain. Donc en fait voilà, c'est un petit peu toute cette trajectoire que je vous propose, hein, un petit peu comme chaque fois lorsque je parle d'un archétype, je propose toujours d'aller de la vase aux étoiles, parce que ben, en fait il y a différentes étapes qui nous amènent justement du côté matériel en fait au côté intérieur, hein. Et là on va voir que justement dans le cadre des noces alchimiques on va dépasser véritablement en fait la question de l'intériorité, et on va aller jusqu'à se rejoindre en fait à la question du cosmos. Donc en fait c'est une trajectoire qui est véritablement beaucoup plus vaste en fait de ce que l'on pourrait penser au départ. La question des noces alchimiques, si on prend en fait les trois traditions, hein, c'est-à-dire la tradition platonicienne par exemple, pourquoi on a cette notion en fait de couple alchimique qui traverse les âges ? Tout simplement parce que dans le récit de la création des mondes, par exemple dans Platon, il fait référence justement à la création du genre humain comme étant composé d'un côté d'un homme et de l'autre d'une femme. Et donc, c'est intéressant comme concept, mais pour la création des mondes, si les deux êtres sexués sont dos à dos, ce qui forme une unité à part entière, hein, comment vont-ils faire justement pour créer les mondes ? Donc, à un moment donné, le principe créateur, justement, vient dire, en fait, je vais les scinder en deux, et ils vont pouvoir enfin se rencontrer et participer à la création des mondes. Donc le spermatozoïde qui va féconder l'ovule, et à partir de là, on a la création des mondes par dissémination successive. Et donc la question des noces alchimiques vient se poser d'emblée, en fait, dans la création du genre humain, puisque au départ il a été créé en unité, il a été coupé en deux, ce qui fait que le manque de l'autre va pousser justement par le désir à la création des mondes. Donc en fait, on est toujours dans cette dynamique-là. Et c'est ce manque, alors qu'on emploie un mot savant, hein, c'est le manque ontologique, c'est-à-dire c'est celui qui fonde véritablement l'espèce humaine, ou le mode de vie en règle générale, hein, puisque après, on a toujours en fait une double polarité qui est là. Eh bien, en fait, le fait d'avoir scindé l'être humain entier en deux va créer le manque, le désir va venir s'installer, la création des mondes va pouvoir se faire, mais ce manque qui est inscrit en fait dans l'ADN de l'humanité va toujours pousser l'être humain à aller à la rencontre de ce qui lui manque. Donc le manque devient un moteur justement pour aller vers sa complétude. Alors au début ça va partir sur le manque matériel, après ça va être sur le manque émotionnel, le manque sentimental, le manque affectif, et ainsi de suite, le manque spirituel, et petit à petit on va avoir en fait toute une chaîne d'élévation qui va se mettre en place, et on retrouve ça effectivement dans le récit platonicien. On retrouve ce récit aussi dans la Bible. Lorsqu'on prend la Genèse par exemple, en fait, il nous est dit que l'être humain est créé dans sa double polarité, et un petit peu plus tard, on nous dit que Adam et Ève sont créés. Donc, vous voyez, on a effectivement, dans ce récit biblique, dans la Genèse, on fait encore référence à la création d'un être finalement androgyne, hein, et qu'il va falloir séparer pour que la création des mondes ait lieu. Hein. Et c'est là où on assiste justement à la création de Ève. Alors suivant les traductions de la Bible, il nous est dit que Ève est issue d'une côte de Adam, alors que suivant d'autres traductions, on nous dit que Ève a été créée à côté d'Adam. D'accord ? Donc c'est vraiment très différent comme version. Mais ça sous-tend en même temps cette vision, cette erreur de traduction va donner naissance effectivement à une culture où l'homme va avoir la suprématie sur la femme. Hein ? Donc dans la Bible, généralement, on ne retrouve que de manière très habile la disparition de Lilith. Hein ? Au départ, en fait, dans la création des mondes, il y avait... Vous connaissez l'histoire de Lilith ?
Non.
C'est Lilith, en fait, donc il y a eu la création du principe masculin, du principe féminin, donc Adam et Lilith. Lilith a été faite de la même glaise que Adam, et Adam voulait avoir la suprématie sur Lilith, notamment dans l'acte sexuel, il voulait la soumettre, et Lilith refuse parce qu'elle dit, en fait, j'ai les mêmes prérogatives de toi que toi, et je ne vois pas pourquoi je me soumettrais à ta volonté. Donc, elle prononce des paroles magiques, et elle soustrait justement à la violence physique et sexuelle de Adam, et Adam, se retrouvant tout seul, va pleurer auprès de Dieu en lui disant « Ah, Lilith, elle est partie, comment on peut faire ?» Donc il y a un premier archange qui intervient auprès de Lilith pour lui demander de retourner auprès de Adam, et elle lui dit « Non, pas du tout, il veut me soumettre, il veut me dominer, donc je reste dans ma position, je m'extrais de cet homme-là. » Et puis un deuxième archange revient parce que il y a toujours pas d'accord. Et un troisième archange revient, et Lilith, refusant en fait de se soumettre définitivement à Adam, la punition que Dieu lui inflige, c'est que 100 enfants de sa progéniture devront mourir chaque jour pour qu'elle reste indépendante. D'accord. Donc de cet aspect, en fait, la Bible nous en parle à mots couverts, mais les exégètes nous rappellent que...
C'est ce qu'on appelle un dieu d'amour.
Alors, ouais, c'est ça. Mais c'est toute la difficulté de la tradition biblique et de la tradition chrétienne, en fait, et de la gnose, en fait. Puisque la gnose dit justement que le dieu de la Bible est un dieu démiurge, ça veut dire que c'est un dieu qui a été déchu, c'est une représentation défaillante du principe de Dieu, puisqu'il distribue le bien et le mal, et que si un dieu a été créé, il a créé tout simplement les mondes, et ce sont les hommes qui ont attribué le bien et le mal. Et donc la tradition de la gnose va à contresens justement de la tradition chrétienne en disant vous aimez un dieu démiurge, c'est-à-dire une figure détériorée de ce qu'est Dieu, et au contraire nous aimons le principe créateur divin, c'est-à-dire il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ensuite des morales locales qui sont créées, mais la nature ne s'occupe pas du bien et du mal, elle s'occupe de créer la vie tout simplement. Donc ça, c'est une grande bataille entre les gnostiques et les chrétiens. Et après, tous les courants qui sont issus hein, de la chrétienté, que ce soit le protestantisme, que ce soit des rosicruciens, et ainsi de suite. Ça, cet épisode de Lilith, effectivement, puisqu'on le soustrait à notre savoir, nous empêche en même temps de concevoir un monde égalitaire, quelque part, entre les hommes et les femmes. Et ça va donner, en fait, à 2000 ans, 4000 ans de patriarcat qui sont, dont on est issu, enfin, dont on souffre encore aujourd'hui, à mon sens. Hein. Mais c'est intéressant, en fait, parce que si on reprend... Et si on reprend effectivement, vous voyez, dans la création, dans la tradition grecque, hein, qu'est-ce qu'on nous dit dans la tradition grecque qui est issue en fait de la tradition égyptienne, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en fait que du chaos, c'est le principe créateur, le chaos. Alors le chaos, c'est pas tel que nous on l'entend, les Grecs, nous lorsqu'on dit que c'est chaotique, on dit que c'est la merde intégrale, que c'est foutu, que le chaos c'est le désordre, c'est rien ne peut sortir du chaos, c'est la chienlit, et ainsi de suite. Alors que chez les Grecs, la question du chaos, c'est véritablement l'énergie primordiale, c'est-à-dire que à partir du chaos va naître l'ordre. D'accord. Donc le principe du chaos chez les Grecs est très différent de ce que nous percevons en termes de chaos, parce que du chaos chez les Grecs va naître l'ordre. Et qu'est-ce qu'on nous dit en fait dans la tradition grecque sur la création des mondes? On nous dit que du chaos est né Gaïa. Gaïa, c'est le principe féminin. Hein, aujourd'hui, dans certains mouvements, en fait, on redonne en fait ce nom à la Terre. À la terre mère, à la terre nourricière, à la terre première, et de Gaïa, Gaïa va engendrer Ouranos. D'accord ? Donc là, dans la tradition grecque, c'est le principe féminin qui va engendrer le premier dieu, qui s'appelle Ouranos, le principe masculin, et mécontente des enfants que lui donne Ouranos, elle va demander à son fils Cronos de tuer son père, pour voir, pour affiner en fait la création. Pourquoi ? Parce qu'avec Ouranos, elle a des principes créateurs qui sont très puissants, qui sont très violents. On a vraiment des forces gigantesques. Hein. On a les titans, on a des titans à mille têtes, on a vraiment des forces colossales qui sont informes du coup. Et en fait, lorsque Cronos va prendre la place de son père et va enfanter sa mère, eh bien, il va donner naissance en fait à des dieux qui sont déjà beaucoup plus polissés. Et c'est là où on va retrouver Zeus et toutes les dieux de l'Olympe. Hein. Donc avec des gens qui sont quand même beaucoup plus civilisés, même s'ils sont quand même d'une grande force. Et c'est là où ils vont se partager entre Zeus, Poséidon et Hadès, les trois mondes. Mais tout ça pour dire que en fait, lorsqu'on reprend dans ces récits la création des mondes, il y a toujours la question en fait d'une double polarité. Je crois que c'est surtout ça qui est intéressant. En fait, c'est de la dualité que va naître en fait la création d'un monde, c'est-à-dire que va naître une unité. D'accord ? Donc en fait, lorsqu'on garde ce principe en tête, C'est intéressant parce que ensuite, lorsqu'on va s'intéresser plutôt à au récit de la création des mondes en Asie, et notamment tel que le proposent les taoïstes, eh bien en fait, pour eux, il y a d'abord la création du Tao. Donc le Tao, ce sont les règles de vie, c'est les lois qui vont permettre la génération de la vie. Le Tao, c'est ça en fait. Ce sont les lois universelles qui s'appliquent à tout un chacun et on ne peut pas sortir du Tao parce que en dehors du Tao, en fait, il n'y a pas de vie. Si on veut abolir les règles de la vie, eh bien en fait, ça ne fonctionne pas. Donc le Tao reprend le même principe que le chaos chez les Grecs et du Tao va naître le concept du yin et du yang. Et le concept du yin et du yang, nous on l'assimile nous en Occident souvent comme étant masculin, féminin, alors que pour eux c'est pas du tout dans cette tradition-là qu'ils le voient, bien au contraire, puisque lorsqu'on se rappelle le dessin, hein, c'est un cercle avec une partie noire, une partie blanche, et dans la partie... Pardon ?
Il est là, non ?
Voilà, c'est le principe que l'on a sur les tasses, effectivement. C'est ça. Et on voit très bien, en fait, que dans la partie la plus enflée, si on prend le yin qui est blanc, par exemple, qui est représentatif de la couleur, le yang qui est blanc, et on voit que, en fait, au moment où le yang devient le plus enflé, le principe yin, c'est-à-dire le principe opposé, apparaît. Hein, c'est pour ça qu'il y a toujours un point blanc et un point noir dans la partie opposée. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde un petit peu plus attentivement ce symbole, eh bien en fait, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est sous-jacent. C'est-à-dire que le yin engendre le yang engendre le yin. Rien n'est jamais totalement yin, rien n'est totalement yang. Donc en fait, dans la tradition taoïste, on ne parle jamais de pureté. Comme on parle dans la tradition chrétienne, par exemple, parce que ben, déjà, dans leur compréhension du monde, les taoïstes ont compris qu'avec le pur, on ne fait rien. Par exemple, si nous respirions de l'oxygène pur, nous serions désintégrés. Si on buvait de l'alcool pur, on serait brûlé. Donc, en fait, le principe du mélange en fait, des choses, c'est le principe de la création, mais on est toujours dans un système à double polarité. Et c'est le mouvement qui existe entre ces deux polarités qui crée les mondes. D'accord ? Donc là, on commence à affiner un petit peu plus ce qui se passe justement à l'intérieur même de notre psychologie. Parce que bien souvent, lorsque nous avons des paires de paradoxes qui se présentent, eh bien, le travail que l'on peut faire justement sur nous, c'est comment ces paradoxes vont me permettre d'unifier une pensée, c'est ce que j'appelle l'harmonie par le conflit, c'est-à-dire que lorsque j'ai un conflit intérieur, le travail que je vais faire en approfondissant les deux polarités, la compréhension des deux polarités, eh bien c'est ce qui va me permettre de comprendre qu'il y a un moyeu qui existe et qui relie ces deux polarités, et qu'il y a un principe commun qui me permet effectivement de basculer d'un endroit à un autre. Et c'est justement là que le mouvement... C'est là que le mouvement justement peut avoir lieu, et que la vie peut continuer justement. Mais on est toujours dans un système de double polarité, et c'est pour ça que le yin et le yang est souvent mal compris chez nous, parce qu'on le réduit en fait au masculin et féminin, alors qu'en fait, il est représentatif de beaucoup plus de choses que ça. On retrouve aussi cette notion en fait, de Tao, de Yin et de Yang dans la tradition chamanique qui nous a été transmise par Carlos Castaneda. En fait, lorsqu'il nous parle de la double polarité du monde, il nous parle en fait du tonal et du nagual. Et on retrouve encore... vous connaissez un petit peu Castaneda ? Castaneda est un anthropologue dans les années 50, je crois, dans le cadre de ses études d'anthropologie en Amérique, est allé voir un chaman au Mexique, et il était de la tradition toltèque. Voilà. Et donc au départ, lui, tout fier de ses savoirs, lorsqu'il rencontre pour la première fois Don Juan, c'est le chaman, enfin il appelle son chaman initiateur comme ça. Il lui dit, oh, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, on va pouvoir collaborer, vous allez voir, ça va être super. Et en fait, pendant 30 ans, il va vivre les enseignements de Don Juan, et petit à petit, sa perception du monde va changer, et il va partir, il va sortir d'un monde dual, en fait, pour rentrer dans un monde qui est beaucoup plus rond. Et il va effectivement complètement transformer sa vision du monde. Et en même temps que sa vision du monde le transforme, il va développer tout un savoir-être chamanique. Et dans ses bouquins, alors ils sont au nombre de 5, hein, je crois que le premier c'est l'herbe du diable et la petite fumée, qui est très intéressant. Et en fait, il a témoigné durant toute sa vie, au travers de ses bouquins, de tout son cheminement spirituel au contact de ce chaman, et de toutes les transformations intellectuelles, psychologiques et métaboliques qu'il est en train de vivre. Et c'est aussi une manière, en fait, de témoigner de ces noces alchimiques. C'est-à-dire que petit à petit, il va découvrir qu'il possède des choses dont il n'était même pas au courant. Voilà. Et dans ses témoignages, il nous dit par exemple que il a été capable de marcher sur des rayons de lumière, de se transposer d'un endroit à un autre sans avoir le don d'ubiquité, manifester des choses à partir de rien, connaître l'avenir, connaître le passé, et il a fini effectivement par créer aussi son clan, parce que chaque chaman doit créer son clan, et il est mort il y a quelques années seulement. Et tout ce que nous raconte Castaneda au travers de ses livres, on va le retrouver aussi, par exemple, dans la tradition bouddhiste, on va le retrouver dans la tradition hindouiste, où certains enseignants, qui existent encore aujourd'hui, hein, que l'on appelle des avatars, alors les avatars, c'est pas encore une fois le sens que nous, lorsqu'on dit c'est un avatar, en fait c'est une dans le sens hindouiste, en fait un avatar, c'est une étincelle de Dieu sur Terre. Donc c'est complètement différent, et ce sont des gens qui effectivement sont capables de procurer des soins physiques, spirituels, psychologiques, qui sont capables effectivement de se déplacer d'un endroit à un autre, qui sont capables de générer des diamants, enfin bon, tout un tas de manifestations comme ça. Et dans cette trajectoire des noces alchimiques, on retrouve ces capacités à transcender en fait sa condition humaine. Nous, chez nous, par exemple, en philosophie, on va le retrouver avec l'approche de Nietzsche, qui va nous dire, en fait, le surhomme, c'est il a tué Dieu, il a tué la représentation tutélaire qu'il avait de Dieu, et il est rentré dans sa propre humanité. Donc on a tout le mouvement nietzschéen qui vient corroborer ces éléments-là, pour nous, en Occident, qui est le démarrage en fait d'une réflexion pour les occidentaux de ce que peut représenter en termes de réalisation personnelle ce que sont les noces alchimiques. On a aussi par exemple quelqu'un, alors il y a des témoignages hein, dans des bouquins qui existent, il y a par exemple Spalding qui est un scientifique qui a vécu fin 19e, début 20e, et avec un groupe de 11 scientifiques, il avait entendu parler de ces grands maîtres qui étaient réalisés, et avec ce groupe de scientifiques, ils sont allés en Inde, et ils ont rencontré ces maîtres réalisés, et pendant 2 ans, ils ont vécu avec ces maîtres réalisés, et il rend le témoignage de son vécu dans un bouquin qui s'appelle « La vie des maîtres ». Et là encore, on assiste effectivement à des personnages qui ont des capacités vraiment extraordinaires, qui sont capables effectivement de se déplacer dans le temps et dans l'espace de manière instantanée. Et comme ce sont des scientifiques, ils avaient mis au point tout un tas de protocoles qui permettaient justement de valider la réalité de ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Et lorsqu'au terme de ces enseignements, ils ont corroboré toutes les notes qu'ils avaient, eh bien, il y avait 0 défaut. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. On a quelqu'un aussi comme Fakyab Rinpoche, qui dernièrement a témoigné au travers de son bouquin qui s'appelle « La méditation m'a sauvé ». Voilà, c'est un moine bouddhiste hein, qui a été enfermé dans les geôles chinoises et qui a fui justement la Chine. Et quand il est arrivé à Dharamsala, il a bénéficié du Fonds international des aides aux victimes de barbarie et il a été transféré par avion à New York. Et lorsqu'il est arrivé sur le sol américain, en fait, il ne pouvait plus bouger et il avait en fait une gangrène généralisée. Et pendant 6 mois, avec le corps médical allopathique, il va discuter. Et il va refuser systématiquement l'amputation, puisque c'est seulement par ce biais-là que l'allopathie lui propose de guérir. Et pendant 3 ans, il va entrer en méditation 12 heures par jour, suivant le principe de trois méditations, et il va restaurer complètement son corps. Voilà, à la grande surprise des médecins allopathes, et voire même que il y a même un médecin qui l'avait suivi dans le protocole justement, et qui lui dit mais vous devez prendre de la médication ailleurs que nous ne connaissons pas. Et lui il dit mais non, je médite tout simplement 12 heures par jour, suivant 3 principes de méditation que j'ai appris et qui sont accessibles à tout le monde. Et c'est la seule chose que je fais. Et le médecin lui dit si la méditation sauvait, ça se saurait. Voilà. Mais dans son bouquin, il parle en même temps de choses très étonnantes, puisque ben, il témoigne en même temps hein, de l'invasion des Chinois au Tibet. Et il parle un petit peu des traditions dites ésotériques qui existent au Tibet, où par exemple il y a des moines qui sont embaumés depuis 500 ans. Alors ils ne sont pas embaumés suivant la formule égyptienne, hein. Ce sont des gens qui à force de méditation, le jour où ils ont senti qu'ils mouraient, eh bien en fait ils ont momifié leur corps, et leur corps est resté en l'état. Et 500 ans après, on continue effectivement d'apporter à ces gens-là des prières. Il témoigne aussi d'autres moines, par exemple, qui sont capables de rester des années durant sans manger, tout simplement en respirant ce que les hindous appellent le prana, c'est-à-dire la force subtile de l'air, et que ces gens-là, effectivement, n'ont absolument aucune nourriture, qu'elle soit solide ou qu'elle soit liquide. Aujourd'hui, on peut trouver dans notre monde ce mouvement-là, qui s'appelle le respirianisme. Et certaines personnes sont capables effectivement de se passer de nourriture sur plusieurs années sans aucun dommage pour leur santé. Alors on ne dit pas que c'est accessible à tout le monde. Hein. Je pense qu'il faut avoir quand même un certain nombre de réalisations personnelles probantes pour y arriver. Mais toujours est-il que justement dans cette trajectoire des noces alchimiques, j'ai essayé de brasser un petit peu tous ces éléments que j'avais. Pour me dire, ben oui, on ne peut pas rester juste sur la question du couple en tant que tel, bien que le couple est le point de démarrage en fait de la rencontre de soi, de la rencontre de l'autre. Et c'est un petit peu tout ce, après ce préambule d'une demi-heure, c'est un petit peu ce que je vais essayer de tracer avec vous. Mais voyez qu'après, lorsqu'on va sortir en fait de la question du couple, pour rentrer dans une conception un petit peu plus large de ce que j'ai appelé les noces alchimiques, on va partir effectivement sur des aspects beaucoup plus spirituels que le simple échange en fait d'être humain à être humain. Donc en fait, dans la manière, il me semble, que nous avons de rentrer dans cette notion dans ce processus justement d'élévation de notre conscience, si on regarde ça au travers du couple. En fait, on a au moins 3 étapes dans le couple. J'ai appelé ça le couple inconscient, le couple subconscient et le couple conscient, en fait. Donc, le couple inconscient, c'est, je l'ai associé en fait à la question de l'amour-dépendance. Hein ? Le couple subconscient, c'est le couple de l'individuation, c'est-à-dire c'est un amour de révélation. Hein. Et la troisième partie, c'est le couple spirituel, c'est l'amour de don. Donc pour revenir en fait dans le couple fonctionnel, l'amour de dépendance, là on est vraiment dans des couples, on l'a tous vécu, hein. C'est pas, alors, il n'y a rien qui exclut quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, ce sont des étapes intellectuelles qui permettent de formaliser une trajectoire. Il n'est pas dit que parce qu'on est dans une case, on ne visite pas les autres. Hein. Les choses ne s'excluent pas dans la vie. Je crois que c'est. En fait, la question de l'amour-dépendance, c'est d'un point de vue psychologique, c'est en fait, je ne sais pas que je suis blessé, mais je perçois en toi une force qui va m'aider en fait à me guérir. Alors ça c'est le discours inconscient, hein, on est bien d'accord. Parce que dans la pratique, c'est quoi cet amour-dépendance? Eh bien, je suis en train de dire à l'autre que j'ai besoin de lui pour vivre. D'accord? Donc en fait, il y a tout le système projectif, c'est-à-dire que mes blessures, comme je ne peux pas les voir en moi, je vais les projeter sur l'autre dans le cadre de la relation amoureuse. C'est-à-dire que je vais accuser l'autre des souffrances qui sont les miennes. Ça, c'est compliqué. Mais en même temps, je ne peux pas me passer de l'autre. Parce que s'il part, je n'ai plus de représentation de mes propres blessures. Et du coup, je ne peux pas imaginer qu'à aucun moment, en fait, ces choses existent dedans moi. Et donc, la question de la dépendance, vous voyez, c'est vraiment la question de la dépendance qu'on pourrait qualifier en psychologie de dépendance névrotique, en fait. C'est-à-dire, on en connaît, hein, des couples névrotiques. On a vraiment des gens, en fait, qui sont chat-chien toute leur vie, mais qui ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre, par exemple. Hein? Mais ça, ce sont généralement des blessures qui sont très vives l'un dans l'autre, et elles viennent soit en complémentarité, c'est-à-dire, je souffre de la même chose que toi, donc il y a une similitude, ou alors je souffre de quelque chose dont toi tu n'as pas souffert et je sens que cette force va me permettre de guérir. Mais en même temps je te reproche d'avoir cette force parce que toi tu n'as pas connu ma souffrance. Donc tu ne peux pas me comprendre. Vous voyez, c'est tout arabiscoté de ce côté-là. Hein, et donc on a généralement des... On a surtout des couples fonctionnels à cet endroit-là, c'est-à-dire que l'on a on est dans la représentation de l'autre, c'est-à-dire que le mari va demander à la femme de s'habiller de telle manière pour qu'elle soit son faire-valoir, la femme va demander aussi au mari de s'habiller d'une certaine manière pour pas avoir honte, et ainsi de suite. Vous voyez, on est vraiment dans des systèmes de représentation où on demande à l'autre d'être notre faire-valoir, parce que ben, nous n'avons pas compris encore que l'autre est un être humain à part entière et qu'il peut s'habiller ou fonctionner de la manière dont bon lui semble et que cela n'est pas nous. Vous voyez, la question de la relation, en fait, de l'amour-dépendance, elle est à cet endroit-là. C'est-à-dire que je remets à l'autre le devoir, en fait, de satisfaire mes besoins, même si ces besoins, je ne suis pas allé les visiter et qu'ils sont inconscients pour moi. Donc on a effectivement toute cette relation de dominant-dominé, de hiérarchisation des choses. On rentre bien évidemment dans... on confond le discernement et le jugement de valeur. Hein, parce que ben, on est justement tout le temps dans le jugement de valeur. On juge les choses, on juge le monde environnant. Et Dieu sait qu'en France, on est vachement costaud pour ça. Hein. Je trouve qu'on est quand même un pays de ce côté-là. On est tout le temps dans le jugement et on ne s'aperçoit pas parfois que, en fait, dans la même phrase, on peut être aux antipodes de quelque chose. Mercredi, je faisais le jardinage et j'avais une discussion avec un monsieur chez qui j'intervenais. Et je trouvais absolument fabuleux tout ce qu'il pouvait dire parce que c'était exactement ça. Il pouvait critiquer le tout et son contraire dans la même phrase, mais c'était super pour lui. Il avait une idée très précise de... Et je me disais, oh super, ok, d'accord. Mais c'est vrai que mais voir aussi que chez nous, il y a aussi ces zones d'ombre, je crois que c'est pas pour jeter la pierre à... Hein. C'est juste pour dire que, ben, en fait, il y a des endroits où nous sommes dans la dépendance à l'autre, alors que cet autre soit un être humain, que ce soit un aspect matériel, que ce soit un aspect psychologique, un aspect spirituel, peu importe en fait. Hein, je crois que nous avons tous des dépendances à cet endroit-là, à certains endroits justement, et que ben, savoir que c'est dans l'inconscient de notre vécu que ça se situe, ça peut être intéressant justement. Mais pour revenir justement à ces noces alchimiques, c'est puisqu'on demande à l'autre d'être finalement notre complément, le complément de notre inconscient, vous voyez qu'on est quand même à la recherche de quelque chose qui est unitaire, même si c'est tout de guingois dans la relation. Hein, même si on reproche à autrui ce que l'on est, parce qu'on ne peut pas voir qui l'on est, c'est là où c'est tout de guingois. Mais ça fonctionne quand même. Donc, c'est là où aussi où on retrouve, par exemple, des couples qui pensent que la seule manière d'être en lien, c'est d'être fusionnel. Vous voyez? C'est-à-dire, on fait tout ensemble. Il n'y a aucun espace de liberté. On se tient la main du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Vous voyez? Et les espaces de « Ah oui, mais si tu aimes ça, ben moi je vais faire ça. Et si toi tu aimes ça, ben oui, non, mais... » Et comme il y a tout ce système de hiérarchie de dire que l'homme est supérieur à la femme, patin ou fin, on a souvent des couples qui sont où la femme est soumise, de dire « Ah ben oui, mais j'ai plus d'espace de liberté, et comment je fais ?» C'est un petit peu comme certains... on a ça aussi, par exemple, dans les couples alcooliques, hein, ou les couples maltraitants, celui qui se fait taper ne peut pas sortir parce qu'il a peur justement d'aller vers un ailleurs, ou l'alcoolique a peur d'aller vers un ailleurs, ou quelqu'un qui est dépendant à quelque drogue que ce soit a peur d'arrêter parce que justement ce serait une béquille qui n'a plus pour pouvoir être présent au monde. Donc ces amours de dépendance comme ça, on peut les retrouver dans beaucoup d'endroits. Et il y a vraiment cette notion de « c'est mon inconscient qui parle et je ne peux pas imaginer que l'autre soit différent de moi ».
Oui, c'est l'éducation entre nous.
Et c'est pour... On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il y a tout... Mais tout l'idéal romantique, par exemple, c'est aussi d'être dans la fusion permanente. Enfin, je veux dire, tu vois, au Moyen-Âge, tout le mouvement romantique, c'était ça. C'est on est dans la fusion. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer que l'autre a une identité à part entière parce qu'il n'y a que la fusion qui fonctionne. C'était la moitié. On dit bien, tu es ma moitié. Tu es ma moitié. Dans tout le langage amoureux, on a ça. Tu es ma moitié.
Quand on est bien avec quelqu'un, on a envie de tout faire avec. Après,
on ne connaît pas pareil.
Non,
on
ne
les connaît pas.
Mais les choses ne sont pas exclusives les unes des autres.
Tu te ranges à l'autre, tu te ranges à toi. Quand tu es bien avec quelqu'un, tu as envie de faire ensemble. Mais quand tu commences à te détacher d'un côté, c'est que... C'est voilà.
Alors, ben voilà, c'est justement, tu vois, quelle est la respiration? Là, dans cette trajectoire, on va parler des respirations possibles, justement, à l'intérieur de à l'intérieur du couple. C'est-à-dire, est-ce qu'un couple, il est complètement fusionnel et finalement, donc c'est un rapport d'inconscient à inconscient, je ne veux pas voir la différence, je veux que l'on soit tout le temps ensemble, c'est-à-dire que le différent est inconcevable. Enfin, c'est ça la fusion. Non, c'est juste, c'est juste une perception des choses. C'est pas bien ou mal. Il n'y a pas de jugement de valeur. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la psychologie inconsciente, en fait, on est tout le temps en train de juger pour pouvoir se réapproprier les choses à soi. Parce que justement, le narcissisme n'a pas été encore créé et ne permet pas de trouver les bases de son individualité. Voilà. C'est une étape. C'est pas bien, c'est pas mal. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste une étape. Et si nous étions 7,5 milliards de personnes sur cette Terre à être tous dans le même mouvement, dans la même perception des choses, ça se saurait depuis longtemps. Or, nous sommes tous, en fait, dans une courbe d'involution et d'évolution. On involue, on évolue, on involue, on évolue. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal là-dedans. Il y a des personnes qui vont passer toute leur vie dans une étape d'involution. Est-ce que c'est mieux que d'être dans une étape d'évolution? Je ne sais pas. Est-ce que si j'ai envie de vivre toute ma vie dans l'espoir de la fusion la plus complète et que c'est ça que j'ai à vivre, c'est ça que j'ai à vivre? Mais c'est juste une perception des choses. ça n'empêche pas les autres, effectivement, d'exister, et toujours regarder, et lorsque le narcissisme n'a pas été suffisamment construit, on s'aperçoit qu'effectivement, on est, et je trouve qu'en France, on manque beaucoup d'un vrai narcissisme, en fait, de quelque chose qui nous éduque à notre propre individualité, et on est toujours en train de confondre le jugement de valeur et le discernement. C'est-à-dire que pour me rassurer de qui je suis toujours obligé de critiquer autrui, en bien ou en mal, parce que ben, je ne vois pas que ce que l'autre fait, c'est peut-être une souffrance qui est dedans moi, et que j'ai besoin d'aller vérifier, d'aller vivre et d'aller réparer cette souffrance pour me libérer justement du besoin que j'ai de rabaisser l'autre pour m'augmenter moi. C'est juste des schémas psychologiques. Et Dieu sait qu'on en a de partout, de ces choses-là. Donc on a aussi, dans ce type de représentation de couple, on a beaucoup de représentations extérieures à nous, c'est-à-dire que on sait ce que doit être un homme, une femme, et nous vivons le couple au travers de ces représentations livresques. Il n'y a pas d'appropriation de ce que peut être le couple pour nous, en tant qu'êtres humains qui partageons ce couple-là et qui le créons. C'est-à-dire que c'est un couple de fonction. Vous voyez ? Et donc, si un déroge à sa fonction, il est blâmable. Mais c'est comme lorsque la Bible nous dit, ou la Bible, ou le Coran, ou le Talmud, ou quoi que ce soit, tous ces livres qui nous décrivent la vie pour ce qu'elle doit être, et non pas... Et qui disqualifie ce que nous percevons de la vie au motif que ce n'est pas dans les textes, vous voyez, c'est si je sors du texte, eh bien, en fait, je suis disqualifié. Donc, un couple fonctionnel va rester effectivement dans la lecture très exotérique de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme. Et on en a beaucoup d'histoires comme ça dans notre toutes les histoires de chevaliers où effectivement l'homme c'est ceci, la femme c'est cela. Vous voyez tout le Moyen-Âge où on a même la Renaissance, hein, l'homme c'est ceci, l'homme c'est cela, où il n'y a pas de construction intérieure. Dans la mesure où socialement on obéit au code social, c'est-à-dire le livre qui nous dit ce que doit être la vie, hein, eh bien, en fait, j'ai rempli une bonne vie. Je peux être fier de ce que j'ai vécu, parce que j'ai obéi au texte qui me décrit ce que doit être la vie. Ouais, donc cette question de couple fonctionnel, elle est vraiment... elle est en même temps la base qui va nous permettre de construire quelque chose qui, dans notre psychologie, est importante. C'est au moins une base à partir de laquelle on va pouvoir agir. D'accord ? Ça, c'est important. Ensuite, on va... Lorsque l'on a saturé, en fait, cette perception du couple, on va passer, en fait, dans le couple de la révélation. Alors ça se fait graduellement, hein. J'ai mis des grandes têtes de chapitre, il n'y a pas l'illumination qui vient de seul coup comme ça et qui dit « Waouh, ça y est, c'est bon !» C'est en fait graduel, c'est tout un processus qui va nous permettre de gravir marche après marche. Et là, j'ai fait des gros paquets. Le couple de l'individuation, c'est quoi ? C'est-à-dire que je vais commencer de percevoir que l'autre est un être humain à part entière et que, du coup, l'autre existe. C'est-à-dire que je vais rentrer dans un couple qui va être harmonieux. Alors, l'harmonie, entendons-nous bien de ce que c'est. L'harmonie, ça veut dire qu'il y a un espace dans le couple où ça peut être en fusion, et en fait, à la périphérie, il va y avoir des choses où je suis complètement à l'opposé de l'autre. D'accord ? Mais le tout est harmonieux. C'est ça la question de l'harmonie. C'est pas que je fais dans le semblable, je fais pas dans l'identique, je fais pas dans le même. C'est-à-dire que je suis capable de me sortir de ce que je suis en train de vivre et de voir un petit peu plus large. Et donc à partir de ce moment-là, je peux dire « Ah oui, ok, il y a un endroit, c'est super, on est raccord 100%, et il y a des endroits, on est aux antipodes, mais en fait, c'est l'ensemble qui est harmonieux et ça me convient. Alors, on imagine bien que pour passer d'une fusion la plus complète où la moindre différence est intolérable à une perception du couple sous cette forme-là, il y a du boulot. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire en même temps que l'autre apparaît dans mon champ de vision. Il y en a même qui disent que l'autre, c'est l'enfer. Il y a Sartre qui nous dit que, qui nous dit que l'autre, c'est l'enfer.
C'est
l'enfer, c'est les autres.
Il
n'y en a pas qu'un. Et pourquoi ? Parce que effectivement, dans l'existentialisme, il y a quand même tout ce mouvement qui tend vers le développement de la personne, et on commence de s'apercevoir que le monde, à un moment donné, est polysémique, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs sens en même temps. Et ça devient très dérangeant. Ça devient très dérangeant de s'apercevoir que d'un seul coup, il y a une pluralité de sens, alors qu'on est parti d'un même mot, d'une même valeur, d'une même idéologie. Et on s'aperçoit qu'en fait, d'un seul coup, pouf, ce qui était comme un, en fait, s'atomise, devient de plus en plus diffus et nous échappe. Et ça nous fait rencontrer l'autre. Et l'autre, on aimerait bien, en fait, qu'il vienne dans notre territoire, vous voyez, de compréhension. Parce que c'est ça qui nous rassure. Hein, lorsqu'on prend l'existentialisme, c'est ce trajet en fait de comment je vais vers l'autre et comment je vais accepter à un moment donné que c'est la pluralité des points de vue qui va permettre justement l'émergence d'un monde partagé qui donne sa beauté et sa cohérence au monde. Si le monde était unitaire, ça se saurait. Vous voyez ? Donc, l'autre, c'est véritablement du coup le miroir de qui je suis. C'est-à-dire que dans ce couple de l'individuation, je vais commencer à comprendre que l'autre, eh bien, au travers des critiques que je lui adresse, eh bien, si je suis un petit peu honnête avec moi-même, je vais m'apercevoir que ce sont des choses qui me gênent dedans moi. Et que l'autre n'est que le support de ce qui me gêne, et qu'il n'est responsable de rien, puisque c'est dedans moi que ça gêne, c'est dedans moi que ça gratouille. Vous voyez ? Donc l'autre est le révélateur de qui je suis. Mon bourreau devient mon sauveur, ça devient compliqué. Parce que l'autre va pouvoir me permettre de me révéler à moi-même. Vous voyez, c'est ça en fait, la question de l'amour de révélation. C'est-à-dire que la question de l'individuation, c'est véritablement comment l'autre va m'aider à aller à la rencontre de qui je suis. Et avec tous les désagréments que ça veut dire. Ça veut dire que si l'autre est revêche, c'est que dedans moi, il y a quelque chose qui est revêche aussi. Et que je n'ai pas forcément à enflammer la relation, mais plutôt à rentrer dedans moi pour voir là où ça couine. Qu'est-ce qui fait que, de quel tissu je suis fait ? Où est-ce qu'il est le nœud gordien à cet endroit-là pour que ça couine autant quand je rencontre l'autre ? Eh oui ! C'est ça ! Parce que l'autre, du coup, devient le révélateur de qui je suis. Et donc, merci d'exister. Bon, c'est douloureux comme trajet hein, avant d'arriver là, parce que ça veut dire que, encore une fois, on va passer d'une représentation d'un monde extérieur, c'est-à-dire que je suis dans ma tour d'ivoire et c'est le monde qui est responsable de mes dysfonctionnements et de mes désillusions et de mes frustrations. Moi, je n'y suis pour rien, voilà, dedans. Hein, ce sont les autres qui sont méchants. On va sortir effectivement de cette espèce d'orgueil qui nous coupe des autres pour rentrer dans un petit peu plus d'humilité pour le coup, et qui va nous dire ben finalement non, tu participes à cette réalité, tu n'es pas seul. Si tu es capable de voir ça à l'extérieur, c'est que cela existe déjà dedans toi. Parce que s'il n'y a pas de sédiment à l'intérieur de moi pour que je puisse me faire une représentation du monde, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas lire. Donc, si l'autre me titille quelque part, c'est que nécessairement, il y a quelque chose qui, dedans moi, a été titillé. Et que le fait d'aller le rencontrer, c'est justement s'assurer quelque part, même si la trajectoire est difficile, même si elle est compliquée, même si parfois elle est dangereuse par rapport à nous-mêmes, eh bien, c'est aller se décarcérer, justement, de toutes ces blessures, de toutes ces blessures égotiques en même temps, de ces blessures narcissiques, pour arriver justement à réouvrir la confiance et en soi et en l'autre. C'est-à-dire, comment puis-je avoir confiance en l'autre si déjà je n'ai pas confiance en moi ? Mais ce n'est que par la rencontre que je peux le faire. Et pour ça, il va falloir que je désarme la relation au fur et à mesure. Et le fait de désarmer la relation, c'est de dire, oui, l'autre est le support grâce auquel je peux voir ma guerre intérieure. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'archétype du guerrier. Hein, lorsque le guerrier a fini et saturé, lorsque le soldat, en fait, est saturé de meurtre, on avait vu ça avec l'ordre des Templiers, où ils étaient simultanément et soldats et moines, et bien en fait, c'est parce qu'ils étaient en capacité de tuer, mais en même temps, il fallait qu'ils aient aussi une approche spirituelle de ce que pouvait être la vie et la mort. Et donc, bien souvent, les chevaliers allaient terminer leur vie dans des monastères pour faire un recueillement, parce qu'ils avaient besoin, face au meurtre et à l'incendie, de faire un retour intérieur grâce auquel ils pouvaient enfin comprendre que la guerre qu'ils avaient menée jusqu'alors, cette guerre qu'ils avaient menée à l'extérieur, était en fait tout simplement une représentation du monde qui était à l'intérieur d'eux. Et qu'une fois qu'ils avaient fait ce retournement de figure, qu'ils étaient partis de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, ils se rendaient compte que la guerre était dedans eux. Et là, on rentrait dans le guerrier psychologique, c'est-à-dire, je vais à la rencontre de qui je suis, et Dieu sait que la bataille est beaucoup plus importante à l'intérieur de cet espace-là, parce que c'est beaucoup plus simple de tuer quelqu'un à l'extérieur que de tuer ses préjugés et d'aller à la rencontre de ses préjugés, et de les désamorcer, et d'être en paix avec. Parce que, effectivement, toutes les blessures que nous avons traversées dans un sens, eh bien, il va falloir que l'on les retraverse dans l'autre sens, mais de manière consciente cette fois. Donc, faut-il être sadomaso, masochiste tout au moins, pour se dire, il va falloir que je me guérisse en repassant par les mêmes ornières par lesquelles j'ai été blessé. Oui, c'est le seul moyen que j'ai de reconstituer mon tissu, ma peau, ma chair, mon cœur, mes tripes. Mais là, je suis obligé de le faire consciemment. C'est-à-dire que j'accepte que le conflit qui est en train de s'ouvrir devant moi, mais qui se trouve en fait à l'intérieur, eh bien, c'est un conflit qu'il va falloir que dans lequel j'aille seul. Mais je sais qu'en même temps, c'est grâce à l'autre que j'ai pu découvrir cette partie de moi-même. Donc c'est là où celui qui m'a infligé la blessure, eh bien effectivement, au bout du processus, je vais pouvoir lui dire merci. Pourquoi ? Parce que ce processus de guérison va restaurer dedans moi de la puissance, de la fierté, et non plus de l'orgueil, et de la méfiance. Et parce que je récupère de la puissance, et parce que je récupère de la fierté, je récupère de la confiance en moi, parce que je sais que du coup, ce travail-là, eh bien, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui en suis détenteur, et je sais que je l'ai fait pour moi, en moi, et par moi. C'est-à-dire que personne d'autre n'a pu le faire que moi. Et c'est ça qui rend de la puissance dedans soi. Et c'est ce qui nous permet justement de sortir de la toute-puissance, en me disant l'orgueil dans lequel j'étais, où il fallait que je soumette l'autre. C'est passer du temps, lorsque l'autre t'agresse, à dire « bon, ok, il est en train de m'agresser, mais qu'est-ce qu'il veut dire pour de vrai à l'intérieur ? Est-ce que je ne peux pas l'aider à formuler son véritable besoin ? Si l'autre m'agresse et me reproche quelque chose, c'est que nécessairement il est en attente de quelque chose dont il n'arrive pas à formuler le bien fondé autrement que par l'agression. C'est passer du temps aussi à aller vers l'autre, dans la rencontre à l'autre, de cette manière-là. C'est-à-dire se prendre des scudes au travers de la tête et de dire, bon, si je réfléchis deux minutes et que je ne veux pas continuer justement dans cette inflation de la guerre et du reproche et du mépris, je vais essayer d'être un petit peu plus intelligent que la situation et je vais essayer de l'aider à formuler quel est son besoin. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Ça demande en même temps une sacrée dose de sagesse et de décalage justement par rapport à la situation en disant « elle ne s'adresse pas à moi, elle s'adresse à ce que je représente ». Je sors du couple fonctionnel pour entrer dans quelque chose qui est de l'ordre. Ok, elle attend ça de moi. Bon, ça y est, enfin elle a craché la valda. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, mais à un moment donné, cracher sa valda, c'est sortir de la fonction pour entrer dans le cœur. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la relation ? Et c'est tout ça, tu vois, qui est à transformer. Et c'est là où c'est complexe, parce que ça demande des années de transformation pour passer effectivement d'une représentation extérieure à une représentation intérieure, parce que entre-temps, il a fallu en même temps être capable de comprendre que le jeu qui se joue dans la fonction, c'est-à-dire dans la représentation de l'autre, n'est qu'un jeu relationnel. Mais que l'intérêt justement d'un couple, c'est de rentrer dans quelque chose qui est plus dans le cœur, beaucoup plus dans le bide, et de dire, mais si j'apprends les choses par cœur, si je suis effectivement dans ce cœur, je ne suis plus dans la raison, je suis dans l'émotionnel. Mais je ne suis plus dans un émotionnel qui déborde, je suis dans un émotionnel qui est capable d'être accueilli en même temps et redynamisé dans un ailleurs qui permet justement une construction où la rencontre des deux est possible. Mais faut-il qu'il y en ait un des deux ou les deux, si ils sont capables, de pouvoir justement se décaler de la problématique en disant « je suis en colère pour telle et telle raison » et de dire « ah oui, ben si c'est ça, en fait, mais pourquoi je ne le demanderais pas tout simplement à l'autre ?» Tu vois ? C'est de sortir la colère et d'être dans cette clairvoyance en disant « mais pourquoi je me mets en colère finalement après l'autre ? Est-ce que je ne serais pas fondé à lui demander tout simplement ou à exprimer auprès de lui mon besoin ? Pourquoi suis-je obligé de passer par la colère ? Pourquoi je suis obligé d'aller dans « il faut qu'il me devine ». Mais non ! Enfin, je veux dire, l'adulte que je suis est capable de dire, voilà, de s'assumer. Mais c'est ça le couple de révélation. Mais encore faut-il, encore une fois, sortir de cette représentation extérieure pour rentrer dans l'intérieur. Voilà qui je suis. Je suis fait de besoins, je suis fait de désirs, je suis fait d'envie, et le fait d'être en lien avec ces réalités, c'est ce qui fonde mon humanité. Donc à partir de là, je suis fondé à le demander à l'autre et non plus à le contraindre sous forme de colère ou de reproche ou de caprice à ce qu'il satisfasse à ce que je ne lui demande pas, d'ailleurs, mais que je lui impose sous forme de colère. Là, c'est tout ce travail de subtilité. C'est comment je passe de l'extérieur à l'intérieur et de dire à un moment donné, mais j'ai plus besoin de colère, parce que si je suis en lien avec qui je suis fondé aussi à demander à l'autre, veux-tu participer à mon besoin ? Et parce que c'est OK pour moi, il peut aussi me répondre oui ou non. Parce que je reconnais que c'est un être humain à part entière, qui a sa propre trajectoire, qui a sa propre dynamique, et que la rencontre de deux personnes, elle se fait sur un oui. Pour continuer le chemin. Et que s'il me dit non, c'est tout à fait respectable et que je n'ai pas à lui en tenir grief, parce que c'est en même temps lui apporter une marque de respect. Je respecte profondément qui tu as le droit de dire non, et cela n'impacte pas notre relation. Au contraire, tu m'offres l'occasion de comprendre une de tes limites et de montrer qui tu es. Merci. Merci de ce non. Tu me dis non, mais tu te dis oui à toi. Quel respect, merci, je suis avec quelqu'un qui se respecte. Waouh, quel cadeau. Mais c'est tous ces changements psychologiques que ça amène justement de passer de l'extérieur à l'intérieur. Quelqu'un qui me dit non, c'est pas juste pour me faire chier, pour m'emmerder, pour me rabaisser, pour ceci, pour cela. Lorsqu'on est dans cette trajectoire d'individuation, on est véritablement dans une démarche respectueuse vis-à-vis de soi. Parce que du coup, lorsque j'affirme qui je suis, ce n'est plus par opposition à l'autre, c'est juste que j'arrive à comprendre que ben, si j'aime le rouge et qu'il mal aime le vert, eh ben oui, c'est comme ça, et puis c'est pas parce que sa couleur préférée c'est ça que ça minimise effectivement mon amour de ma couleur à moi. Vous voyez, tout ce système de comparaison qui est là, de hiérarchisation, de jugement de valeur, de discrimination, justement. Non, l'autre peut exister pour qui il est, et dans la mosaïque, en fait, c'est super joli. Mais pour que je sorte, effectivement, pour que je voie la mosaïque, faut-il encore que j'ai pris du recul. Et que c'est cette mosaïque qui est harmonieuse. Mais il va falloir que je sorte de la problématique égotique. Moi, 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 moi. Et moi, là-dedans. Ben, je suis un lieu de passage, comme l'autre est un lieu de passage, et grâce auquel je vais pouvoir, justement, continuer le chemin. Mais nous avons besoin parfois de rester justement dans cette construction moi, moi, moi et moi, parce que c'est important pour qui nous sommes dans notre trajectoire d'être humain. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur que je suis en train d'émettre. C'est juste que, en sachant à quelle étape on est, je crois que ça peut être aussi rassurant de se dire ben, « j'en suis là ». C'est bien, c'est mal, mais ce n'est pas la question d'être bien ou mal. C'est juste de savoir, je suis en train de vivre cette partie de l'expérience. Waouh ! Et généralement, quand on... Enfin, pour ma part, je sais, lorsque je suis en train de vivre cette partie de l'expérience, en même temps, c'est un facteur d'accélération. Parce que je me dis, chouette, eh ben super, mais là, je vais y aller. C'est-à-dire que j'ai quelque chose que je vais pouvoir pétrir concrètement, et je vais me saturer de ça, je vais me saturer de cet espace. Je sais que je suis là-dedans, pourquoi voudrais-je être ailleurs ? Au contraire, la conscience que j'amène justement dans cet espace-là, c'est un accélérateur. Je ne vais pas passer des années à saturer cet espace-là, du coup je vais en passer beaucoup moins, et ça va me nourrir, parce que je sais que c'est là que qu'est ma place. Ce n'est pas être ailleurs, vous voyez ? Et être axé, c'est justement savoir que ben, dans cet espace-là, eh bien c'est moi, et moi c'est OK. Et parce que c'est moi et que c'est OK, eh bien, je pétris la glaise avec laquelle je suis en train de me forger. Mais c'est ça qui nous permet justement de créer un couple qui a du sens pour deux. Vous voyez que dans ce processus justement de couple, de notre alchimie, qu'il va bien falloir justement que je rencontre l'autre polarité dans son intégralité, c'est-à-dire que lorsque et là on va passer effectivement à la troisième étape, c'est-à-dire l'amour de don, c'est-à-dire une fois que j'ai compris qui je suis, je vais pouvoir effectivement rentrer dans une autre trajectoire que j'ai appelée le couple spirituel, l'amour de don, c'est-à-dire que, alors là on a parfois des phrases qui tuent l'amour, hein, qu'on ne peut pas comprendre forcément, parce que c'est du genre « je peux me séparer de toi car je n'ai plus besoin de toi ». C'est super violent, quoi, comme truc. Mais c'est-à-dire que je peux me séparer de toi dans la névrose, dans le besoin, dans ce qui nous attachait jusqu'alors, parce que je n'ai plus besoin de toi, je suis quelqu'un d'entier. Il faut faire la traduction, hein, des phrases comme ça, parce qu'autrement, ça va pas... Vous voyez, c'est... Ce qui peut paraître violent, justement, à certains moments, lorsqu'on est dans d'autres étapes, ça peut paraître... Mais c'est évident. Tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Et puis, ben, et si on s'unissait, finalement ? Si on faisait quelque chose, parce que nous sommes en autonomie, tous les deux, on peut vivre notre forme de couple. Waouh, super ! Deux êtres humains intégrés, entiers, autonomes, indépendants, en lien les uns avec les autres, décident de former un couple. Waouh ! Deux personnalités s'unissent. Génial ! C'est ce qui permet justement de créer quelque chose au-delà d'eux. la névrose de dépendance, au-delà justement du couple de révélation, parce qu'on est dans un ailleurs. C'est là où on peut dire aussi, je peux t'aimer pour qui tu es, car je m'aime pour qui je suis. On pourrait penser que c'est super narcissique comme truc, tu vois. Mais je peux t'aimer pour qui tu es, ben c'est-à-dire que comme je n'ai pas d'attente que l'autre vienne combler des choses par rapport à mes propres manques ou ainsi de suite, et que j'ai compris ce jeu de miroir, ben j'accepte qui je suis. C'est génial. J'ai plus à demander à l'autre d'être quelque chose en particulier. Je peux l'aimer pour qui il est. Super. Mais même avec des défauts, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est pas des défauts. C'est juste une des caractéristiques de ta personnalité. Pourquoi devrais-je la juger comme étant un défaut ? Si justement je viens vers toi, c'est que c'est l'ensemble qui est bien. Non, c'est l'ensemble, c'est super. Oui, mais alors mais je t'assure, mais c'est compliqué comme truc, parce que on a l'impression, effectivement, suivant à partir de quel endroit on regarde ces phrases-là, on se dit mais en fait c'est vachement distant comme amour. C'est comment, c'est de l'amour avec des jumelles? Ouais super. Non, ça peut être super vivant, mais je dirais c'est plus du tout les mêmes manières
on
de. Il y a plus de souffrance parce que l'autre. Ne correspond pas juste. D'ailleurs, c'est plus des questions qui se posent. C'est-à-dire que dans la... c'est dans la mesure où je suis quelqu'un d'individué, d'individualisé, en fait, je n'attends plus de l'autre de quoi que ce soit. Sinon que de décider de vivre ensemble une aventure qui a du sens pour deux. Super. Et tu peux faire des choses de ton côté, je peux faire des choses du mien, et puis on peut avoir de l'élastique entre nous, ça pose absolument aucun problème. Voyez, c'est tout. Donc une fois que l'on en est effectivement à ces espaces-là, c'est vrai que la spiritualité peut prendre aussi une forme un petit peu plus développée, en fait, dans la réalisation de la personne. C'est-à-dire qu'une fois que la personnalité est intégrée, on va commencer peut-être à gravir un petit peu dans la spiritualité. Et c'est là où on va pouvoir... On peut passer un cap. C'est-à-dire que beaucoup de représentations de ce que peut être un couple, de ce que peut être le lien à l'autre, va continuer de changer. C'est-à-dire que le cadre du couple va servir de support... En fait, parfois, à se sentir plus en lien avec la nature immédiate, environnante. On va se sentir plus en lien avec, par exemple, avec la Terre, avec le système solaire, avec le cosmos. Et donc, on va avoir des représentations et des manières d'être présent au monde qui sont vraiment très différentes. Parce que cette notion de couple, de noces alchimiques, justement, si le couple... sexué permet effectivement l'émergence d'une individualité, d'une spiritualité, c'est comment petit à petit je vais comprendre que les noces alchimiques n'en ont jamais fini. C'est ce que je vous disais tout à fait au départ, c'est-à-dire que lorsque l'on est complètement intégré avec ces témoignages de yogis que ce soit Castaneda, que ce soit Fakir Rinpoche, que ce soit dans la tradition hindoue, on les appelle aussi des Araratas ou des Avatars, des gens qui sont complètement... ou alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de gens de Dieu au Brésil, non ? Ouais. Enfin voilà, qui fait des guérisons miraculeuses, mais par wagon entier, hein. Il prend 200 personnes dans un camp, et il les soigne d'un seul coup, et effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Mais voilà, et ce sont des gens qui sont... ou alors il y avait Padre Pio qui dernièrement a été canonisé. Et ce sont des gens qui sont véritablement dotés qui sont vraiment dotés de pouvoirs assez étonnants. Et lorsqu'ils nous racontent justement leur lien avec l'univers, On a par exemple des témoignages au travers des récits de Hildegarde de Bingen, avec Maître Eckhart par exemple, hein, qui sont de grands mystiques catholiques. On a effectivement des visions très, très denses et très, très pertinentes sur ce que c'est que le lien en fait de l'atome jusqu'au cosmos. On avait Alice Bellé qui a écrit un très bon bouquin aussi qui s'appelle « La conscience de l'atome ». Ce sont sept conférences qu'elle a données en 1950 à l'ONU et où elle montre comment effectivement de l'atome jusqu'au cosmos il y a un continuum de conscience et que les noces alchimiques dont je parle ce soir en fait vont effectivement de ce que l'on appelle aujourd'hui la physique quantique où on s'aperçoit que en fait de manière très dans des microparticules il y a autant de conscience que dans un système solaire par exemple. Hein. Alors, elle n'est pas déclinée de la même manière, bien évidemment, hein, parce que pour décrire le grand tout, on a les lois de Einstein, donc E égale mc2, mais que pour la physique quantique, on a toutes les équations de Bohr qui sont là et qui représentent le monde de manière très différente. Plutôt, c'est un système d'information, plutôt qu'un système, le système quantique est plus un système d'information qu'un système matériel. D'accord. Donc on s'aperçoit que dans l'infiniment petit, on est en train de parler du spirituel et que lorsqu'on ne comprend pas certaines forces cosmiques dans les équations de Einstein, on met des constantes. Voilà. Alors il y a par exemple l'énergie noire, la matière noire, des choses comme ça qui permettent hein, aux équations d'Einstein de tenir la route. Voilà. Mais en fait, on parle effectivement d'une force qu'on ne comprend pas. Alors on peut la reprendre de manière spirituelle et dire « ouais, il y a quelque chose qui est cohérent et qui permet du plus grand jusqu'au plus petit d'être relié en permanence et que la conscience est un continuum qui va du plus petit jusqu'au plus grand et du plus grand jusqu'au plus petit parce qu'il y a des allers-retours et que nous participons à cette prise à cette conscience-là. Par exemple, pour témoigner juste de ce qui peut m'arriver à certains moments, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient en fait, au cabinet, il arrive que suivant son état émotionnel, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures avant, en fait, je me retrouve, alors que je suis en train de vaquer à mes occupations de la manière la plus, de ce que je fais habituellement, d'un seul coup, il se trouve que je connais un état particulier en fait, énergétique. Et poum, la personne qui arrive en suivant, c'est exactement l'état dans lequel elle est. Vous voyez, alors qu'elle est peut-être à 10-15 km avant que je la voie. Et pour autant, c'est une perception. Donc ça, les noces alchimiques, ça va de ces perceptions-là jusqu'à ces perceptions-là. Ou alors des gens qui nous disent « Tiens, je t'ai fait un soin, il est à 10 000 km. » Et là, tu te dis « Attends, non, c'est pas possible. » Mais la question, tout le travail sur le magnétisme, c'est ça, tout à fait.
Oui,
et ça, on peut le faire, oui. On peut travailler à distance sur quelqu'un. Et en même temps, je crois que lorsqu'on est dans le couple spirituel et que la spiritualité évolue, je crois que la question en fait, du mot « amour » change aussi. C'est-à-dire autant la question du... ben oui, parce que on change de niveau, on change effectivement de perception de ce que veut dire le mot amour. Autant l'amour justement d'un être envers un autre, c'est une manière de retrouver donc son unité. Et lorsqu'on passe sur les plans spirituels, la question de l'amour nous permet... Enfin, le mot amour nous permet de comprendre qu'en fait, on n'est plus dans un amour affectif ou sentimental, on passe dans une compréhension de la question de l'unité. L'amour devient une question d'unité. Quand je suis en amour avec la planète, quand je suis en amour avec le système solaire, eh bien, en fait, je recherche tout simplement une question d'unité au travers de ça. Hein, parce que si on prend le mot amour, effectivement, le couple inconscient, le subconscient, le couple conscient, effectivement, c'est le mot amour qui traverse tout ça aussi. Donc au début, il est lié à la personne en tant que telle, mais dans les noces alchimiques, le mot amour, chaque fois, nous permet de passer des crans pour aller vers une unité. Et au fur et à mesure que l'on grandit dans la perception de ce qu'est le mot amour, on va de plus en plus vers une perception de ce que c'est que l'unité. Donc on sort petit à petit de la notion d'émotion, de sentiment, d'affect, pour rentrer dans une perception beaucoup plus globale de ce qu'est amour, et on se dit à ce moment-là, ben, l'amour, oui, c'est juste une question d'unité, c'est-à-dire que je participe à. Voilà. Et j'entendais tout à l'heure un conférencier qui disait, mais par exemple, lorsque l'on fait, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'état d'inflammation de la planète, pourquoi devrions-nous le découpler justement de l'inflammation égotique que connaît actuellement le monde, puisqu'on a une espèce d'élévation avec des gens comme Trump, avec Poutine, avec des gens comme... il y en a tout plein qui sont vraiment dans une espèce
de délire
comme ça. Et il disait, ben, vous voyez, il y a tellement de gens en fait qui participent à ça dans le monde, à cette espèce de consumérisme sans fin et ainsi de suite, que ben, il y a une telle inflation, c'est une énergie qui est tellement puissante et qui est tellement yang, en fait, que pourquoi faut-il s'étonner que nous connaissions aussi une période de dérèglement climatique ? Puisque si on accepte que la loi d'amour, c'est une loi d'unité, eh bien, comme il y a une inflammation au niveau de la psyché mondiale, il y a nécessairement, sur le support de la Terre, il y a aussi une inflammation qui se fait. Pourquoi faudrait-il s'étonner que l'un soit différent de l'autre ? Pourquoi faudrait-il dire qu'il n'y a pas de relation de l'un à l'autre ? Alors qu'on voit bien que dans la centaine d'années qui viennent de s'écouler, il y a quand même une espèce de corrélation avec un monde sans fin, un plaisir sans fin, une consommation à outrance, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé que c'était assez juste, justement, en termes de compréhension de ce que pouvait être, justement, ce mot « amour », qui nous amène aussi à travailler différents aspects de notre sensibilité. Hein, c'est-à-dire que, en même temps que les noces alchimiques se développent, notre sensibilité va devenir de plus en plus grande. Je ne parle pas de sensiblerie. Je parle, nous allons être de plus sensibles à. On va être sensible, par exemple, à la manière dont la déforestation se fait. Ça peut être une manière d'être sensible à. Mais ce n'est pas une sensibilité intellectuelle. Je donne 10 euros à WWF pour replanter des arbres. Hein. C'est véritablement sentir que il y a un appauvrissement de la Terre en tant qu'être vivant, par ses déforestations, par ses pollutions, parce que ça impacte aussi sur nous. Et du coup, c'est retrouver aussi cette unité à cet endroit-là. La sensibilité nous permet en même
c'est
temps...
C'est unité avec un grand U majuscule.
Oui. Et la sensibilité dont... Et c'est pour ça que, par exemple, des outils comme la méditation, notamment, nous permettent d'accroître notre sensibilité, parce que c'est un endroit, la méditation, où nous pouvons faire justement le lien entre ce que nous percevons intellectuellement et ce que nous vivons physiquement. Vous voyez ? La méditation, c'est un outil qui permet de faire ça. C'est-à-dire que, à quoi ça sert d'accumuler des savoirs, et des savoirs, et des savoirs, et des savoirs, et des savoirs, si ce n'est pas pour transformer finalement notre monde intérieur ? Alors là encore, ce n'est pas une critique que j'adresse, hein. Il y a des personnes pour lesquelles avoir un maximum de connaissances est très important. Hein. Et par contre, il y en a beaucoup qui restent juste là-dedans. Mais comment, à partir de ces savoirs, je vais commencer d'intégrer après, juste mon expérience personnelle, je me suis aperçu que le lieu de la méditation était un lieu de rencontre, justement, entre ces deux-là. Parce que le corps, à l'intérieur de la méditation, en fait, va se poser. Et lorsqu'on pratique, justement, la méditation régulièrement, le mental, lui, arrête de chevaucher. Hein ? Parce qu'il est sur des chevaux lancés à grande allure en permanence, et le fait de descendre en fait dans la vibration du corps pour la mettre dans quelque chose de beaucoup plus posé permet justement à ce mental de se calmer, donc de se dissiper parmi tous les sujets qu'il peut brasser au fur et à mesure des secondes qui passent, et petit à petit, ben justement, il y a quelque chose qui va se sédimenter. Pourquoi ? Ben parce que c'est un petit peu à l'image, je dirais, d'une flaque d'eau. Si je tourne, eh ben, la boue va remonter, l'eau va être trouble. Si je laisse effectivement en paix, ça va se sédimenter tranquillement et je vais retrouver de l'eau claire. Voilà. Mais cette clarté va me permettre en même temps d'être beaucoup plus coordonné à l'intérieur de moi-même, puisque c'est beaucoup plus fluide. Vous voyez, et le mental qui agite en permanence et ta facture d'électricité, et les enfants, et le truc, et le machin, et la bombe atomique, et oh, et puis là c'est mal fait, et puis ceci, et puis c'est cela. Enfin, lorsqu'on est sans arrêt dans ce discours permanent qui nous amène à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien, en fait, la méditation est un endroit qui nous permet de redescendre justement dans l'essence et de faire en sorte que cette eau que l'on brasse en permanence et qui fait remonter ben, tous les oligo-éléments et toute la boue, toute la vase, eh bien, en fait, quand on l'apaise, et d'un seul coup, il apparaît très clair que, ah, ben, en fait, c'est juste ce qu'il y a à faire. Voilà. Et la méditation, pour moi, est le seul endroit où, effectivement, il y a cette rencontre de la psyché et du physique, et de la soma, qui permet d'intégrer véritablement. Donc, en fait, oui, si je devais résumer... ouais, on va peut-être un petit peu arrêter. Ouais, le chemin des noces alchimiques, en fait, hein, si je fais cette grande trajectoire, on pourrait dire qu'en fait, c'est le chemin qui permet de dissoudre la personnalité et ses multiples attachements pour laisser la place à une réalité plus grande, plus en lien avec le cosmos et cependant incarné. Parce que du coup, on est dans cette espèce d'ambiguïté ou de paradoxe, c'est-à-dire que lorsque l'on est en lien avec le tout, on est quand même en lien avec soi-même. Et ça, effectivement, dans notre vocabulaire, nous n'avons pas de mots, parce qu'on est trop peu... Enfin, il n'y a pas assez de gens qui le vivent, je pense. Mais il y a effectivement cette question de... je suis en lien avec le tout et pour autant je suis en lien avec moi-même. Donc comment je peux être en lien avec... Et voyez, et là, si on repart dans un discours mental, on est perdu. Et voilà.
Mais ça c'est pas possible.
Et ça, on peut pas l'intellectualiser, pas avec le petit mental.
Mais non, c'est pas possible.
Parce qu'on peut le vivre.
Mais la méditation, c'est pas le mental.
C'est la sensation.
Voilà, c'est simplement la sensation entre ce que tu disais, la reliance entre le ciel et la terre, et en fait notre corps. Et c'est simplement être présent là avec la respiration. En fait, ce qui fait lien avec le tout, avec le ciel et la terre, c'est notre respiration. Simplement ça, et après le mental, faut le laisser de côté, quoi. Voilà, comme ce que tu disais, c'est pas du tout... On peut pas intellectualiser ça. Ça, c'est impossible.
Parce que c'est justement parce qu'on le dissout et qu'on le... C'est la perte, justement, qui nous fait grandir. Accepter que perdre, c'est grandir, c'est accepter justement que ce qui a été nécessaire à notre évolution à un moment donné puisse disparaître pour laisser place à une nouvelle chose. La difficulté qui est la nôtre à cet endroit-là, c'est la peur. C'est la peur. Comme on dit, je sais ce que j'ai, je sais pas ce que j'aurai.
Ce que j'aurai.
Voilà.
C'est la même chose pour les enfants, en fait.
Mais oui,
surtout quand on bosse.
Quand on doit changer de boulot, par exemple, d'entrepreneur, d'entreprise, on se dit toujours, il faut qu'on se rassure vachement. Mais effectivement, mais je crois que...
Mais en amour aussi.
Mais en amour, pareil, dans tout plein d'endroits. Parce que nous sommes, je crois que justement, beaucoup de récits culturels qui sont les nôtres, et sont surtout des récits qui nous permettent de contenir la peur de qui nous sommes, en fait. Parce que qu'est-ce que c'est que cette terre dans le cosmos, dans l'univers, sachant que en fait, c'est moins qu'une poussière. Je veux dire, lorsqu'on regarde, déjà quand on regarde du point de vue de la Terre, et on sait qu'elle n'est pas au centre de l'univers, bien évidemment, il y a 45 milliards d'années-lumière de part et d'autre. C'est-à-dire que l'univers visible est 90 milliards d'années-lumière. À partir de notre point, nous. Hein. C'est-à-dire que c'est juste une représentation à partir de ce que l'on est capable de percevoir avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Donc effectivement, la Terre occupe un espèce de centre, mais on sait très bien que c'est faux, d'accord. Et on se dit, mais quand cette humanité, quand on regarde ce vide sidéral qui nous entoure, on se dit, mais il me faut un récit culturel pour pas me flinguer tout de suite. Il me faut un récit culturel. Autrement, qu'est-ce que je fous ici? On me parle de la vie, on me parle de Dieu, on me parle des valeurs, on me parle de ceci, on me parle... Mais ça n'a pas de sens. Et nos récits culturels nous permettent effectivement de contenir ces peurs fondamentales de ce que, pourquoi on existe. Mais si vous voulez vivre, si vous voulez lire, on est bien parti. En fait, il y a dans la vie des maîtres justement, vous voyez, Spalding en fait expose, les différents niveaux de conscience de manière un petit peu différente en fait de ce qui se passe dans les Upanishads et ainsi de suite. Et il nous dit, en fait, lorsqu'on regarde la conscience universelle et que l'on regarde la conscience terrestre, en fait, la conscience terrestre est tellement mal fichue que pour vraiment rentrer dans la conscience universelle, il y a vraiment beaucoup de boulot, parce qu'il y a toute la couche des peurs, il y a toute la couche des haines, il y a toute la couche des croyances, des magies noires, des magies blanches, et qu'il faut que vous dépassiez justement pour arriver à une perception de ce que nous appelons la spiritualité. Et il dit, mais quand vous en serez à ces niveaux-là, et que vous verrez en fait la simplicité avec laquelle vous pouvez vivre, mais vous serez soulagés. Parce qu'il nous dit, vous avez créé tellement de récits culturels, vous êtes tellement entremêlé les nœuds, vous vous êtes fait des nœuds au cerveau que vous ne savez plus quoi faire de tout ça. Et lorsque d'un point de vue de la compréhension et de la pratique, vous le dépassez, vous vous dites, ah, tout ça pour ça, mais quelle inutilité. Parce que, en fait, la peur fondamentale vient effectivement créer tout un tas de couches qui, lorsque l'on veut passer justement à la spiritualité, doivent être retraversées. Mais ça fait tellement de centaines de milliers d'années, en fait, que l'on pratique justement cette magie noire. Alors, la magie noire, c'est quoi d'un point de vue spirituel? C'est tous les jugements de valeur que nous nous adressons les uns les autres et que nous nous adressons à nous-mêmes. C'est ça qui nous empêche notre propre expansion. Hein, là-dessus sont venus effectivement se mettre des rites plus ou moins dits sataniques, patin couffin et ainsi de suite, avec les immolations d'animaux, d'hommes, patin couffin, et c'est ça qui crée effectivement cette forme de magie noire. Mais c'est au motif d'un récit culturel religieux qu'en fait le meurtre est arrivé. Il dit, et tout ça en fait ça vous emberlificote dans une espèce de noirceur en fait, et en fait, mais vous le dépassez et vous apercevrez que les choses sont d'autant plus simples que vous cessez de croire en fait à toutes ces peurs. Vous voyez, il faut que je tue un agneau ou que je tue une série d'enfants pour que le soleil revienne. Mais ça s'est fait pendant des milliers d'années, le sacrifice humain était là justement, c'était le plus... La Bible nous parle. Je veux dire, par obéissance à Abraham, par obéissance à Dieu, doit tuer son fils. Et c'est au moment où il abaisse le couteau que Dieu change le fils en agneau. C'est un drôle de parcours, hein, quand même, les noces alchimiques.